1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Vous nous disiez, Christelle Bernat, en ouverture de la précédente émission, que 1517 n'est à considérer ni comme un commencement, ni comme une fin en soi. Comment faut-il comprendre cette date ?
Il faut l'envisager comme un moment de bascule, sans s'en tenir à elle seule. Hein, car elle ne fait qu'annoncer une théologie qui n'aura de cesse de se déployer. Et l'année 1520 est une année tout aussi décisive.
À quel titre ?
Eh bien, à cette date, Luther est inquiété depuis plus de 2 ans et poursuivi pour hérésie, vous en rappelez. Et au printemps, la bulle exsurgé dominé, le somme de se rétracter au risque d'encourir l'excommunication. Et c'est cet empressement qui le détermine à rédiger au cours de l'été et de l'automne 1520 3 textes majeurs que l'historiographie a depuis qualifiés de grands textes réformateurs, dans la mesure où il rassemble ses méditations théologiques et sa pensée réformatrice naissante. En fait, c'est parce qu'il est pressé par le procès que Luther veut écrire avant qu'il ne soit trop tard, et il livre à ce titre 3 textes fondamentaux.
De quel texte s'agit-il donc exactement ?
Eh bien, le qualificatif de grand texte réformateur désigne la lettre à la noblesse allemande, le prélude sur la captivité babylonienne de l'Église et le traité de la liberté chrétienne rédigé entre juin et octobre 1520. Luther plaide tour à tour dans ses textes pour l'abolition de toute hiérarchie sacerdotale, au moins en termes de structure, élabore et promeut une définition du ministère essentiel de la parole, et il aborde la condition même du chrétien, en faveur duquel, il introduit les notions de liberté fondamentale et de responsabilité évangélique. Prenons le temps de parcourir, même rapidement, chacun de ces textes. Dans sa lettre à la noblesse chrétienne de la nation allemande, Luther veut démontrer que la cause qu'il défend intéresse en réalité toute la chrétienté. Il s'adresse pour cela, en allemand, à la nation allemande, en l'occurrence à toutes les autorités, empereurs, princes, noblesse, conseil des villes. Et pour lui, il ne s'agit pas de controverser sur des points de doctrine de manière théorique, mais bien de libérer l'Église chrétienne du joug papal. Et c'est dans ce texte qu'il explicite le fameux principe du sacerdoce universel. Valorisant ce principe, qui veut que tout chrétien soit prêtre et capable de juger par lui-même des choses de la foi aussi bien que les clercs, il appelle les Allemands à juger sur pièce de ses thèses et de celles de Rome. Et Luther entend doter l'Église chrétienne d'armes contre la tyrannie de la papauté en lui permettant de procéder elle-même à sa réforme. Comment ? Eh bien, en amendant l'État chrétien qu'il promeut et qu'il soumet à leur approbation, c'est-à-dire en amendant la classe unique de chrétiens et en rejetant la partition entre clercs et laïcs imposée par Rome. Luther souhaite, en quelque sorte, libérer l'Église qu'il pense captive de Rome, enfermée derrière ce qu'il appelle une triple muraille. Celle des lois humaines du pape, celle imposant une distinction entre État ecclésiastique et État laïque, et enfin celle qui réserve au pontife le droit d'interpréter l'Évangile.
Mais sur quoi repose le sacerdoce universel ?
Eh bien, chez Luther, ce n'est pas l'ordination qui fait le prêtre, mais le sacrement du baptême. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le fidèle. L'affirmation « nous sommes tous prêtres » désigne chez Luther une réciprocité des services qui postule qu'il n'y a pas de différence ni de catégorie de fidèles. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les enfants de Dieu partagent cette élection qu'ils remettent par simple délégation au pasteur qui, vous le voyez, n'est pas détenteur de ce pouvoir mais simple exécutant. En quelque sorte. Et Luther élabore là le modèle d'un clergé élu par les fidèles, placé sur un pied strict d'égalité avec les laïcs. Écoutons-le. « On a inventé, dit-il, que le pape, les évêques, les prêtres, les gens des monastères seraient appelés état ecclésiastique. Les princes, les seigneurs, les artisans et les paysans, l'état laïque, ce qui est certes une fine subtilité et une belle hypocrisie. Mais personne ne doit se laisser intimider par cette distinction pour cette bonne raison que tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique. Il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction, comme le montre Paul en disant que nous sommes tous un seul corps, mais que chaque membre a sa propre fonction par laquelle il sert les autres, ce qui provient de ce que nous avons un même baptême, un même évangile, et une même foi et sommes de la même manière chrétiens, car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui seuls forment l'état ecclésiastique et le peuple chrétien. » Ce que fait le pape ou l'évêque, l'onction, la tonsure, l'ordination, la consécration, le costume différent de la tenue laïque, peut transformer un homme en cagot, dit Luther, ou en idole barbouillée d'huile, mais ils ne font pas le moins du monde un membre du sacerdoce ou un chrétien. En conséquence, nous sommes absolument tous consacrés prêtres par le baptême, comme le dit saint Pierre, vous êtes un sacerdoce royal et une royauté sacerdotale, et l'Apocalypse, tu as fait de nous, par l'effusion de ton sang, des prêtres et des rois. Aussi, en consacrant l'évêque, ne fait-il rien d'autre que si, en lieu et place de toute l'assemblée, il choisissait quelqu'un dans la foule de ceux qui possèdent tous un égal pouvoir et lui ordonnait d'exercer ce même pouvoir à la place des autres. Tout comme si 10 frères, enfants royaux également héritiers, choisissaient l'un d'entre eux pour régner à leur place sur l'héritage. Ils seraient toujours rois et égaux en pouvoir, alors que la charge de gouverner serait confiée à un seul.
Que recouvre par ailleurs sa réfutation de la prétention du pape à être seul habilité à interpréter les Écritures ?
Eh bien, en déniant ce pouvoir au pontife, Luther revendique que loin d'être l'apanage des théologiens, les Écritures sont accessibles à ceux qui ont la foi. C'est elles qui donnent l'intelligence de l'Écriture. Mais ce manifeste est très important, non pas uniquement parce que c'est le premier, mais parce qu'il pose 3 principes fondamentaux. Le principe du sacerdoce universel des baptisés, le principe de l'intelligibilité des Écritures soutenues par l'Esprit-Saint et le principe de la responsabilité ecclésiale des fidèles.
Alors Christelle Bernat, vous évoquiez 3 textes. Quel est l'attrait du prélude sur la captivité babylonienne de l'Église ?
Eh bien, dans ce traité, destiné cette fois davantage aux théologiens, Luther développe l'aspect du ministère à l'appui d'une critique de la doctrine et des pratiques sacramentelles traditionnelles. Et au fond, le prélude est l'expression des bouleversements apportés par Luther dans la conception à la fois sacerdotal, sacramentel, mais aussi magistériel. Et si ce traité est surtout consacré à la critique du mésusage des sacrements, que Luther ramène de 7 à 3 puis à 2, il offre surtout une appréciation du ministère et précise la notion d'église. Dans ce traité, Luther postule un seul sacrement, la parole, et 3, voire 2 signes sacramentels, à savoir le baptême et la scène, la pénitence qu'il continue de maintenir mais qu'il finira par éliminer. En somme, des signes sacramentels qui sont limités à ceux que le Seigneur, dit-il, a institués. Et Luther se prononce sur la vocation première et finale de l'Église, être l'Église de la parole annoncée. C'est là la chose la plus importante. Il s'attaque dans ce traité à la messe, qui est alors considérée comme une œuvre et comme réitération du sacrifice du Christ, alors qu'en étant une promesse, c'est-à-dire son testament, nul mérite, dit Luther, n'en constitue l'accès, mais la foi seule. Luther postule que la messe ne consiste en rien d'autre que les paroles du Christ. À ce titre, la messe doit donc être audible et intelligible, et le sacrement n'a de valeur que si cette parole est comprise. La messe donc n'est pas ce que le prêtre offre au nom des croyants à Dieu, mais bien ce que Dieu offre aux croyants. Nous allons y revenir. Écoutons peut-être, comme tout à l'heure, une des citations clés de ce prélude, où Luther nous dit « Quand la foi succombe et que la parole de la foi se tait, eh bien, bientôt les œuvres et l'enseignement des œuvres surgissent à sa parole. C'est par elle que nous avons été amenés, loin de notre pays, dans une véritable captivité babylonienne, dit-il. C'est ce qui est arrivé à la messe, que l'enseignement d'hommes impies en changeait en une bonne œuvre. » Donc c'est cette mutation en quelque sorte de la messe qui passe de promesse à une œuvre qui est la captivité même qu'il cherche à dénoncer. L'objectivité du sacrement est maintenue, mais au fond, il n'est rien, dit Luther, sans le sujet croyant. Dit autrement, les signes n'ont de sens que s'ils sont saisis par la foi du croyant. Avec cette compréhension du sacrement, Luther n'en retient que 2, à savoir le baptême et la communion, mais sous les 2 espèces, il est sensible là à ce que Huss avait posé avant lui. Et ce qui importe pour lui dans l'Eucharistie, c'est ce moment de manducation saisi par la foi. C'est là, dans ce temps, que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Hors de ce temps, ce n'est que du pain et du vin. Mais pour lui, la pire des choses est de considérer que dans la célébration de l'Eucharistie, il y a un renouvellement du sacrifice du Christ, c'est-à-dire de considérer la messe comme un sacrifice. Une nouvelle fois, l'idée que le prêtre offre un sacrifice alors que ce sont les croyants qui reçoivent la grâce. La nouveauté est dans l'inversion du geste, dans cette idée luthérienne de réception de la grâce. Le combat de Luther est donc, on le voit, un combat de désacralisation de certains par et pour la sacralisation de tous. Et dans ce texte, la liberté, par opposition aux captivités, est un terme récurrent Elle est une des valeurs neuves, qui est d'ailleurs assez peu habituelle en théologie. Et Luther va l'expliciter dans un troisième texte qui compte parmi les plus beaux.
Vous voulez parler du traité de la liberté chrétienne?
Tout à fait. Le traité a pour thème en effet la liberté chrétienne, c'est-à-dire celle du peuple chrétien, donc de l'Église. Et dans ce dernier texte, Luther défend le principe selon lequel la liberté chrétienne est donnée dans la foi. Le Christ est présent dans le croyant. Et dans ces conditions, la liberté chrétienne n'est pas une liberté d'indiscipline du croyant, mais plutôt une relation fondamentale du service envers le prochain, dénuée en quelque sorte de toute préoccupation intéressée. La liberté, chez Luther, elle est liée à la foi au Christ, qui la confère par sa parole. Et cet argument, qui traverse tout le traité de la liberté du chrétien, se déploie en particulier à travers 1 Corinthiens 9-19, « Le chrétien n'est soumis à personne, le chrétien est soumis à chacun », qui interroge le paradoxe de la liberté dans la notion conjointe de service et d'esclavage. « Tout chrétien est libre, maître de toute chose », dit Luther, « et en même temps, il est le plus serviable des serviteurs, assujetti à tous ». Luther y affirme que la foi suffit au croyant qui n'a besoin d'aucune œuvre. Là est la liberté du chrétien, qui n'a besoin d'aucun mérite pour obtenir la justice de Dieu. Telle, dit-il, est la liberté du chrétien. Nous n'avons besoin d'aucune œuvre pour obtenir la justice et le salut. Ce que le Christ possède devient de l'âme croyante.
Le protestantisme serait-il alors l'ennemi des bonnes œuvres ?
Non, et c'est là une erreur fréquente. La réforme n'est nullement contre les œuvres, mais seulement contre l'idée d'œuvre méritoire, c'est-à-dire qui permettrait ou qui favoriserait l'accès au salut, ce qui reviendrait à considérer que l'homme participe de son salut, tandis que les réformateurs affirment qu'il ne procède que de la seule volonté de Dieu.
Que faire des œuvres alors? Comment les comprendre?
Eh bien parce que l'homme n'est pas uniquement un homme intérieur et qu'il est aussi un homme extérieur au milieu des autres hommes. Il se doit d'accomplir des œuvres bonnes et justes, conformément au commandement de Dieu.
Avec ce traité, Christelle Bernat, s'achève le cycle de ces grands écrits du réformateur des années 1520, qui ne sont pas ceux à partir desquels Luther est condamné pour hérésie, bien qu'ils soient plus radicaux que les thèses contre la scolastique et les indulgences. Merci Christelle Bernat pour votre contribution.
Merci à vous.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.